Alors dimanche prochain, si ça vous intéresse, il y a le premier culte de l'église athée de Paris. Dimanche 28 septembre. D'après son site internet, cette assemblée sans Dieu, je cite, a pour but de fêter la vie. Les gens vont se réunir le dimanche, à partir de donc la semaine prochaine, ils vont chanter ensemble, discuter, écouter des lectures. Et il y aura pour ce premier culte, dimanche prochain, une prédication apportée par un sociologue sur le thème de l'optimisme. Et les organisateurs nous font cette promesse. Écoutez bien, et je cite le site internet. En vous joignant tout simplement à nous, vous serez dynamisés, vivifiés, restaurés, réparés, renouvelés et ressourcés. Pas mal. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment ça dont j'ai besoin, hein, honnêtement, d'être dynamisé, vivifié, restauré, réparé, renouvelé et ressourcé. Et en fait, ce genre de promesse, ça parle à beaucoup de gens, hein. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart d'entre nous, en fait, je pense que nous sommes conscients, au fond, qu'il y a quelque chose de brisé en nous qui a besoin d'être réparé. Ça se traduit dans nos actes, ceux que nous regrettons d'avoir commis. Ça se traduit dans nos émotions, celles qui nous font souffrir. Ça se traduit dans nos paroles qui blessent les autres. Ça se traduit dans nos désirs frustrés, dans nos addictions néfastes, dans nos pensées inavouables. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en moi. Je suis un être faillible. Je fais du mal aux autres. Je me fais du mal. Je me sens seul, perdu et coupable. Oh, si je pouvais être dynamisé, vivifié, restauré, réparé, renouvelé et ressourcé. Mais vers qui me tourner pour que ça se produise dans ma vie? Vers qui me tourner pour que ça se produise dans ma vie? Toutes les religions, et même la religion de l'athéisme, parce que c'est une religion, font une promesse similaire finalement. Tous les courants de pensée, toutes les philosophies, ou presque, prétendent offrir aux hommes une réponse et un remède satisfaisant face à nos dysfonctionnements. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pas tant qui est capable de faire ce genre de promesses, mais c'est plutôt qui est capable d'honorer ce genre de promesses. C'est pas qui est capable de faire ce genre de promesses, mais plutôt qui est capable d'honorer ce genre de promesses. Et on va voir aujourd'hui que cette question a une réponse précise. La leçon du texte qu'on va lire est tout simplement la suivante. La place d'un pécheur est auprès de Jésus. Ça va chercher loin. La place d'un pécheur est auprès de Jésus. Alors c'est sûr que ça peut paraître un peu simpliste, mais avant de snober la prédication cet après-midi, voyons d'abord comment le texte en parle. Alors on va lire le texte, d'accord? Chapitre 9, versets 1 à 34. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules, saisies de crainte, glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Alors des disciples de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, hein, vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux, peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'ensemble se conserve. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Le démon chassé, le muet parla. Et les foules, dans l'admiration, disaient « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël !» Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Voilà pour la lecture de la parole de Dieu cet après-midi. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, s'il te plaît. Instruis-nous, corrige-nous si nécessaire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La place d'un pécheur est auprès de Jésus. D'accord ? Et pour commencer, le texte va nous faire comprendre, versets 1 à 8, que Jésus a le pouvoir de satisfaire le besoin le plus profond d'un homme. Jésus a le pouvoir de satisfaire le besoin le plus profond d'un homme. Qu'est-ce qui se passe dans le texte ? On apporte un paralytique à Jésus. Et au lieu de guérir le paralytique, que fait Jésus ? Il lui pardonne ses péchés. Tiens. Alors les scribes qui sont là, les scribes, vous rappelez, c'est un peu les théologiens ou les bibliothécaires juifs de l'époque, donc ils ont la tête bien pleine. Ils sont indignés, ces gens-là. Ils sont indignés parce qu'il leur est inconcevable qu'un homme puisse pardonner les péchés. Mais Jésus répond alors de manière très habile à leur indignation. Il leur rappelle ceci qui nous paraît logique, en fait. Il leur rappelle que dire à un paralytique, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé, qui ne bouge pas, hein, dire à un paralytique « tes péchés te sont pardonnés », c'est plus facile, n'est-ce pas, que de lui dire « lève-toi et marche ». On est tous d'accord avec ça. C'est plus facile parce que cette parole n'appelle pas une réponse spectaculaire. Or, dans le texte, Jésus choisit de dire la parole facile alors qu'il était capable de dire la parole difficile, ce qu'il prouve juste après, n'est-ce pas ? En lui disant « lève-toi et marche ». Et hop, il s'exécute, il rentre chez lui. Jésus n'avait donc aucune raison de dire au paralytique que ses péchés lui étaient pardonnés, il n'avait aucun intérêt à lui dire, sauf si tel était réellement le cas. Et sauf si tel était fondamentalement son besoin au paralytique. Suivez bien. Jésus choisit de prononcer la parole qui est plus facile à dire qu'à faire, alors qu'il lui est facile de faire ce qui est difficile à dire. Comment l'expliquer sinon qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il dit ? Ça, vous êtes persuadé ? Vous pourrez réécouter ça plus lentement sur le site internet d'ici quelques jours. Et donc, on découvre ici que Jésus a le pouvoir de satisfaire le besoin le plus profond d'un homme, et ce besoin, c'est celui d'être pardonné de ses péchés. C'est plus dur à faire de pardonner les péchés d'un homme. C'est plus dur à faire que guérir un paralytique. Mais Jésus en est capable. Mais je me demande si nous avons tous conscience que c'est là notre besoin le plus profond à nous aussi. Qu'il n'y a rien de plus important, rien dont nous avons plus besoin que d'être pardonnés de nos péchés. C'est comme ces gens qui souffrent de maux de tête récurrents et qui ne se rendent pas compte que c'est à cause d'une tumeur cancéreuse qu'ils ont dans le cerveau. Alors ils prennent des cachets d'aspirine pour soigner la douleur, mais ça n'a aucun effet sur leur cancer. Ils mettent un petit pansement sur une grosse maladie. n'est-ce pas ? Et au risque de nous choquer, Jésus nous fait comprendre dans ce passage qu'être un paralytique, c'est moins grave que d'être un pécheur. Le péché, c'est un handicap beaucoup plus important, si j'ose dire. Et recevoir le pardon de ses péchés, c'est un miracle beaucoup plus grand qu'une guérison physique, même que la guérison d'un paralytique. Souvenez-vous du contexte ici, dans ce texte, dans ce passage, depuis le chapitre dernier, on a assisté à une sorte d'escalade par rapport à la puissance que Jésus est en train de déployer. Les miracles se succèdent et ils sont plus merveilleux les uns que les autres, d'accord ? Et après donc, au chapitre précédent, après avoir apaisé la tempête, d'accord, au profit de ses disciples. Et ensuite, il fait encore mieux parce qu'il humilie des démons dans un territoire étranger et impur. Maintenant, chapitre 9, Jésus se tient devant un paralytique. Le lecteur retient son souffle. Que va faire Jésus ? Il fait mieux encore en disant au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a le pouvoir de satisfaire le besoin le plus profond d'un homme. Et c'est un point extrêmement important parce que la Bible met ce mot de péché. Elle met ce mot de péché sur notre condition dysfonctionnelle, sur le fait que ça ne tourne pas rond dans notre vie. Et si ça ne tourne pas rond dans la vie des hommes, fondamentalement, d'après la Bible, c'est parce que les hommes sont coupables d'avoir tourné le dos à Dieu et d'avoir voulu vivre indépendamment de lui. Et donc, ce dont les hommes ont le plus besoin, c'est d'être pardonnés par Dieu et d'être réconcilié avec lui. Finalement, c'est assez logique, non ? Nous avons besoin d'être lucides, donc. Oui, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'amitié. J'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin d'être guéri d'une maladie. J'ai besoin d'être encouragé. Mais surtout, surtout, j'ai besoin d'être pardonné. Et ce pardon se trouve auprès de Jésus. Et on verra tout à l'heure pourquoi on peut en être sûr. Mais regardons la suite du texte, à partir du verset 9. Et ici, la deuxième chose que le texte veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a de la place auprès de Jésus pour les gens les pires. Il y a de la place auprès de Jésus pour les gens les pires. Dans ce passage, Matthieu, l'auteur de ce texte, rapporte le moment où Jésus a fait de lui, de Matthieu donc, son disciple. Vous avez remarqué, au verset 9. Et il précise qu'avant d'être le disciple de Jésus, Matthieu était un péager, c'est-à-dire dans la culture de l'époque, un péager, si vous voulez, c'était un genre de collabo. D'accord ? C'était un juif collabo qui collaborait avec les Romains et en plus ils avaient cette réputation d'être cupides et malhonnêtes. Et donc le fait que Jésus appelle des gens comme ça et s'entoure de gens comme ça, ça provoque encore une fois de l'indignation. L'indignation cette fois des pharisiens qui estimaient qu'il fallait normalement se séparer des gens qui vivaient dans le péché. Se séparer des collabos, des gens cupides et malhonnêtes. Ce qu'ils ne comprennent pas les pharisiens, le texte qui nous l'explique, c'est que Jésus est venu précisément pour sauver des pécheurs. Les pécheurs pénitents, les pécheurs contrits, les pécheurs repentants. Ils ne comprennent pas non plus les pharisiens qu'ils sont eux-mêmes pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils pensent qu'ils sont bien portants, eux, qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Et ils ne comprennent pas enfin que pour être sauvé, il faut s'humilier, il faut reconnaître sa misère, sa faiblesse, plutôt que s'efforcer de mériter par soi-même la faveur de Dieu. Et c'était ça que les pharisiens avaient tendance à faire, c'était d'essayer de mériter par eux-mêmes la faveur de Dieu, par tous leurs efforts, par leur intégrité morale, en tout cas ce qu'ils pensaient être de l'intégrité morale, etc. Et donc, le texte nous montre ici qu'il y a de la place auprès de Jésus pour les gens les pires, ou plus précisément pour les gens les pires qui se rendent compte qu'ils sont les pires, ou qui se rendent compte qu'ils ne méritent pas d'être là. Quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais généralement pas très envie de prendre des douches ni de me brosser les dents. J'avais pas l'impression d'être sale. J'avais pas l'impression d'avoir mauvaise haleine. Mais quand on devient un jeune adulte, et qu'on se rend compte que la transpiration, ça a une odeur, et quand on se rend compte que les épinards, ça laisse des traces dans les dents, n'est-ce pas, ou la salade, alors plutôt mourir qu'aller au lycée ou à la fac sans prendre une douche et sans se brosser les dents. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais imaginez maintenant que vous vous apprêtiez à entrer dans la salle de bain, pour vous laver, et là, vos parents interviennent et vous disent « Non mais t'as vu comme t'es sale ? Tu comptes quand même pas prendre une douche dans un tel état, tu vas salir la baignoire !» Absurde, on est d'accord ? absurde, mais c'est exactement l'attitude des pharisiens dans le texte. Et c'est malheureusement aussi l'attitude de beaucoup de chrétiens et de beaucoup d'églises. Franchement, est-ce qu'il y a de la place dans notre église pour les gens les pires? Ou bien est-ce qu'on a peur qu'ils salissent la baignoire? Parce qu'auprès de Jésus, il y a de la place pour les gens les pires. Donc c'est un problème qu'il y a de la place. Il y a de la place auprès de Jésus et pas dans l'église qui se dit chrétienne. C'est un problème. N'importe qui peut s'approcher de Jésus et lui confesser ses fautes, même les choses les plus honteuses, même les choses inavouables, les choses les plus humiliantes. Quelle tragédie ce serait, n'est-ce pas, si les gens qui ont conscience de leurs fautes se disaient que Jésus n'avait pas de place pour eux à sa table. Quelle tragédie! Or, bien souvent, dans l'Église, que ce soit par le discours qu'on entend depuis la chaire, j'en suis le premier coupable, je suis pasteur, prédicateur, que ce soit dans nos relations les uns avec les autres, bien souvent, l'impression qu'on donne, c'est quoi? C'est qu'ici, on n'a pas le droit d'être un pécheur. Ici, on n'a pas le droit d'entrer dans la baignoire quand on est sale. Il faut être propre avant de prendre sa douche. On n'a pas le droit d'avoir des tentations ici, des luttes, des frustrations, des jalousies, des peurs, des doutes. Et en fin de compte, est-ce qu'on donne l'impression dans l'Église, je parle pour ici en particulier, est-ce qu'on donne l'impression d'être des pécheurs contrits et pénitents, accueillis auprès de Jésus par sa seule grâce? Ou bien est-ce qu'on donne plutôt l'impression d'être des personnes moralement supérieures aux autres, auto-justifiés, qui méritons d'être les amis de Jésus. Mais regardons la suite encore du texte, où l'auteur insiste encore un peu plus sur l'amour que Jésus porte envers des pécheurs, à partir du verset 14. Et cette fois, en effet, le texte veut nous faire comprendre que Jésus s'attache personnellement aux croyants dans leur faiblesse. Il s'attache personnellement aux croyants dans leur faiblesse. Jésus est donc en train de manger. On l'a vu avec des pécheurs, hein, des péagers et des pécheurs, les pharisiens sont indignés, et là ensuite une question est soulevée. Pourquoi ces gens, Jésus donc et ses amis, pourquoi ces gens ne font-ils pas preuve d'une piété plus austère, plus grave, plus disciplinée, en jeûnant donc comme il convient pour des gens qui font profession de piété? Jésus répond à l'aide de trois métaphores. D'abord il dit que ses disciples... Les disciples de Jésus sont comme les amis d'un époux, c'est-à-dire d'un marié. Et il insiste sur cette relation privilégiée qui conditionne ici le comportement des disciples. Ensuite, il dit que ses disciples, deuxième métaphore, sont comme un vêtement fragile qui n'est pas prêt à ce qu'on lui couse dessus une pièce de tissu neuve. Et la troisième métaphore est semblable à la deuxième. Les disciples sont comme des outres fragiles qui ne sont pas prêtes à recevoir du vin nouveau. Alors, c'est pas forcément facile à comprendre ce qui se passe ici dans le texte. Mais ce qu'on peut relever, au moins, c'est que Jésus se montre attentif à la situation de ses disciples. Il a une relation de grande proximité, comme d'un marié avec ses témoins, avec ses amis proches, d'accord? Comme un marié, le jour de son enterrement de vie de jeune garçon, vous voyez, sont ses plus proches qui sont près de lui. Jésus a ce genre de relation avec ses disciples, une grande proximité, une grande amitié, presque une intimité avec eux, et il est, d'après les deux autres métaphores, attentif à leur faiblesse. Il insiste sur cette relation et sur le fait qu'il est attentif, qu'il est sensible à la situation de ses disciples. Il se présente ici, Jésus, en fait, comme le contraire d'un conducteur légaliste qui chercherait à soumettre ses adeptes à une stricte discipline religieuse. En fait, c'était un petit peu ça qu'ils aimaient faire, les pharisiens, eux. Discipline religieuse stricte, précise, légalisme. Et là, Jésus se révèle comme étant le contraire de cela. Quelqu'un qui est bien plutôt sensible à la situation des gens qui l'entourent, attentif à leurs faiblesses, et qui les garde quand même auprès de lui. Il insiste sur cette relation privilégiée. Dans ce passage, d'ailleurs, Calvin, théologien, voit Jésus, je cite, qui veut épargner les faibles de peur qu'ils ne se rompent si on leur fait violence ou qu'ils ne viennent à être abattus par la pesanteur du fardeau. On découvre donc ici que Jésus, non seulement il pardonne à des pécheurs, non seulement il s'adresse à des pécheurs, mais il va jusqu'à s'unir à des pécheurs par un lien privilégié. Il s'attache donc personnellement aux croyants dans leur faiblesse. Si j'ose une comparaison à mon tour, Je dirais que Jésus est un peu comme une superstar, super puissante, super connue, qui a le choix entre s'entourer de gens très riches et très distingués, qui sont capables de respecter parfaitement le protocole très exigeant de cette vie du showbiz, d'accord ? Ou bien s'entourer de gens pauvres, faibles et malades, comme vous et moi. Et c'est ce deuxième choix qu'il fait. C'est ce deuxième choix qu'il fait. Nous sommes des clochards, des vieux vêtements, de vieilles outres, d'après la parabole, enfin d'après la métaphore de Jésus. Nous sommes indignes de son appel, inaptes à le suivre. Mais il fait quand même de nous ses amis. Il a fait ce choix-là. Vous voyez comment l'auteur est en fait en train d'insister un peu plus sur l'amour que Jésus porte envers des pécheurs. Jésus a conscience de notre faiblesse, mais cela ne l'empêche pas de nous aimer. Malgré la puissance qu'il a déployée juste avant, au chapitre précédent, d'ailleurs qui a fait peur aux Gadaréniens, aux habitants de ce territoire étranger, malgré une telle puissance, ce Jésus-là qui calme la tempête, qui humilie les démons, ce Jésus-là a de la tendresse, de la patience, de la compassion envers les pécheurs. Comme on va le chanter tout à l'heure dans un chant que vous connaissez assez bien maintenant. Où trouver l'espérance, l'amour en abondance, la surcompassion? Où trouver ces choses? Le texte nous dit ici, auprès du Seigneur Jésus. Pourquoi cette offre que fait Jésus aux pécheurs est-elle incontournable? Pourquoi est-elle inégalable et incomparable? Eh bien, d'après le refrain de ce chant que nous chanterons tout à l'heure, parce qu'il détient le monde et le pouvoir de sauver. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la dernière partie du texte. Et en effet, la quatrième et dernière chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus a le pouvoir de transformer radicalement ceux qui le suivent. Alors, à travers ces métaphores que Jésus vient juste de présenter, il y a quand même une question qui est soulevée. Et c'est la suivante. D'accord, Jésus s'attache en personne aux croyants dans leur faiblesse. D'accord, nous sommes de vieilles outres. D'accord, nous sommes de vieux vêtements. Nous ne sommes pas dignes, pas aptes. Pas apte à être dans l'entourage de Jésus, mais Jésus tient compte de notre faiblesse, d'accord. Mais y a-t-il un renouveau possible pour nous? Est-ce que de vieux vêtements, nous pouvons devenir des vêtements neufs, capables de tenir quand on coud une pièce de tissu neuf dessus? Est-ce qu'on est capable de devenir des outres neufs, capables d'être remplis, aptes à être remplis d'un vin nouveau? Et là, au moment même où cette question est soulevée de façon sous-entendue, le texte nous raconte immédiatement, à partir du verset 18, une série de quatre miracles différents. Toujours des miracles inédits et emblématiques, comme c'est l'habitude pour Matthieu dans son récit. Et là, à travers ces miracles, Matthieu veut nous faire comprendre que oui, Jésus n'est pas seulement capable de prononcer l'absolution des péchés des hommes, il n'est pas seulement capable de pardonner nos péchés, mais il est aussi capable de complètement changer une personne. Qu'est-ce qui se passe? Jésus passe dans la rue, il se fait toucher le bord de son vêtement par une femme considérée à l'époque comme étant impure, impure depuis 12 ans. Et au lieu que ce soit son vêtement, le vêtement de Jésus qui devient impur à son tour, ce qui aurait normalement été le cas si on suivait les lois du Lévitique, au lieu que ce soit le vêtement de Jésus qui devient impur, c'est la femme qui est guérie. Ensuite, Jésus ressuscite une jeune fille qui vient de mourir. Ensuite, dans la foulée, si j'ose dire, en tout cas dans la foulée du texte, du récit, il redonne la vue à deux aveugles. Et enfin, il redonne la parole à un muet. Dans tous ces exemples, des gens sont radicalement changés sous l'effet de la puissance de Jésus. Ce qui se passe ici a une portée pédagogique très importante, en fait. C'est comme si je vous disais, bon, je connais quelqu'un qui peut résoudre parfaitement tes problèmes de plomberie à la maison. Il est plombier, c'est son métier, d'accord ? Mais il sait que t'as pas d'argent, alors il le fera même gratuitement pour toi. Voici son numéro. Tu veux l'appeler? Tu hésites? Tiens, regarde ce qu'il a fait chez cette personne. Et regarde ce qu'il a fait chez cette autre personne. Et regarde ce qu'il a fait chez ton voisin. Et regarde ce qu'il a fait chez moi-même. Tu as vu comme il est compétent? Je t'assure que tu ne trouveras personne de meilleur que lui. Il suffit que tu lui fasses confiance et il est disposé à déployer gratuitement toute sa compétence pour résoudre tes problèmes de plomberie. Bon, okay. En montrant ses exemples de ce qu'il est capable de faire, portée pédagogique, n'est-ce pas? Et le texte ici nous dit, mais regarde, regarde un peu la compétence de Jésus. Il pardonne à des pécheurs, il s'adresse à des pécheurs, il s'unit à des pécheurs, et regarde franchement comme il bénéficie à des pécheurs, fais-lui confiance. Et il est disposé à déployer gratuitement toute sa compétence dans ta vie pour résoudre ton problème fondamental, qui est ta séparation d'avec Dieu, ta culpabilité à ses yeux, et tout ce qui en découle, à savoir tes dysfonctionnements dans la vie de tous les jours, à savoir particulièrement le problème de la mort auquel tu vas devoir faire face, et à savoir, en fin de compte, le jugement que tu mérites à cause de tes péchés. Mais non seulement Jésus nous montre sa compétence à travers ses miracles ici, mais en plus, il parachève en quelque sorte, il scelle la certitude que nous pouvons avoir de sa compétence par rapport au pardon des pécheurs et à la transformation des pécheurs. Il scelle et parachève cette certitude que nous pouvons avoir de sa compétence à travers ce qui se passe un peu plus tard dans le récit, à savoir à travers sa mort et sa résurrection. Quand il est mort sur la croix, je le disais tout à l'heure, Jésus s'est substitué aux croyants, il s'est substitué à nous pour prendre sur lui le poids de notre culpabilité. Et ensuite, il est ressuscité pour prouver que sa puissance était plus forte que la puissance du péché et que la puissance de la mort. Est-ce qu'on peut être sûr qu'auprès de Jésus, les pécheurs peuvent trouver pardon et transformation? Oui, on peut en être sûr. Pourquoi? Parce que Jésus est mort et ressuscité. C'est aussi simple que ça. Il est un Messie conforme aux prédictions de l'Ancien Testament. Il a enseigné avec autorité. Il a déployé une puissance extraordinaire à travers ses miracles, les guérisons, le fait qu'il a chassé des démons, qu'il a même humilié des démons, il a calmé la tempête, il commande toutes choses, la nature, les forces impersonnelles de la nature, les forces personnelles des démons, qui sont ses ennemis, commande ces choses. Mais surtout, Jésus peut te pardonner, te transformer, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est surtout pour ça que toi, tu peux être sûr qu'il y a pardon et transformation auprès de lui. Il a fait lui-même tout ce qu'il fallait, de manière totale et définitive, complète et suffisante, pour le salut des croyants. Alors ça vous dit d'être dynamisé, vivifié, restauré, réparé, renouvelé et ressourcé, ça vous dit? Belle promesse, hein? La question n'est pas de savoir qui est capable de faire cette promesse, mais qui est capable d'honorer cette promesse. J'ai beau chercher personnellement, j'ai beau me renseigner, je vois personne, ni individu, ni institution, ni courant de pensée, qui ait jamais offert une réponse aussi certaine et complète au problème fondamental des êtres humains, à part Jésus. Si vous pensez à quelque chose de mieux, franchement, j'ai envie de savoir, donc vous ne perdrez pas de temps, dès la fin du culte, vous viendrez me le dire, s'il vous plaît. Mais moi, je vois personne, ni individu, ni institution, ni courant de pensée, ni philosophie, capable d'offrir une réponse aussi certaine et complète à notre problème fondamental. Personne à part Jésus. L'église athée de Paris n'a rien pour étayer ses promesses. Ah, elle les a les promesses, mais elle n'a rien pour les étayer ses promesses. Je suis persuadé d'ailleurs que cette pseudo-église deviendra vite un club pour bien portants plutôt qu'un abri pour personnes malades et qui se savent malades. Ce sera très chic d'aller à l'église athée de Paris. Mais ce ne sera pas un endroit qui sera un abri, un havre, un hôpital même, pour des personnes qui se savent malades. L'humanisme sans Dieu, en général, fait bien le constat du dysfonctionnement des hommes, de leurs échecs, de leur violence, de leur injustice, mais l'humanisme sans Dieu n'a rien d'autre à offrir aux hommes qu'un genre de légalisme déprimant. Essaye encore, fais plus d'efforts, fouille un peu plus profondément en toi, tu vas peut-être y arriver. Et l'histoire prouve, les millénaires qui nous précèdent prouvent que c'est en vain. Ça ne marche pas. Même l'islam, et je dis cela avec beaucoup de respect et de précaution, mais même l'islam présente Dieu comme étant, je cite, le clément et le miséricordieux. Mais l'islam n'offre aucun élément de plus pour étayer cette promesse, qui est une promesse de grâce en fait, de la part de Dieu. Mais aucun élément de plus pour étayer la promesse. Et c'est sans surprise qu'une des questions les plus fréquemment posées par les musulmans sur leur propre forum, les forums musulmans, c'est la suivante. Comment puis-je savoir si Allah m'a pardonné ? Et la réponse la plus fréquente, tu peux pas savoir. Fais de ton mieux. Soumets-toi à lui et espère de tout ton cœur qu'il va t'accueillir au paradis. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que la place d'un pécheur est auprès de Jésus, nulle part ailleurs, auprès de Jésus. Pour résumer ce texte, on l'a vu, Jésus a le pouvoir de satisfaire le besoin le plus profond d'un homme. Il y a de la place auprès de Jésus pour les gens les pires. Il s'attache personnellement aux croyants dans leur faiblesse et il a le pouvoir de transformer radicalement ceux qui le suivent. Jésus fait des promesses, il étaye ses promesses, il honore ses promesses. Il est le seul à promettre le pardon et le renouveau aux pécheurs et à avoir prouvé qu'il le ferait au profit de tous ceux qui lui font confiance. Il l'a prouvé par sa mort et sa résurrection. Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Vous avez remarqué dans le texte qu'il y a plusieurs types de personnes. Et à la fin, ça finit sur une note franchement négative. Car certains attribuent au diable la puissance de Dieu. Et en fait, à la fin, ils n'ont que ce choix. Soit Jésus est vraiment qui il est. Soit il est vraiment capable de faire ce qu'il promet. Il l'a étayé. Il a fait, par sa mort, sa résurrection, tout ce qui était nécessaire pour nous pardonner et nous transformer. Soit, si c'est un menteur, alors c'est le diable lui-même. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Prions pour que ce pardon et cette transformation que Dieu promet aux pécheurs et qu'il est capable et disposé à accomplir. Prions pour que ces choses se sachent et se voient dans notre vie pour commencer, comme dans la vie de notre Église. Amen. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ faire tout ce qui était nécessaire pour le salut des pécheurs que nous sommes. Il n'y a de la place, les pécheurs ont leur place auprès de lui. Seigneur, aide-nous à en être convaincus, aide-nous à transmettre de façon efficacement aussi cette promesse, cette offre de grâce que tu nous as faite. Et nous te prions pour les personnes de notre entourage, Seigneur, qui ne te connaissent pas, afin que par notre témoignage ou par le témoignage d'autres chrétiens ou par la lecture de la Bible, ils viennent à comprendre, Seigneur, ce salut que tu leur proposes en Jésus-Christ, ton Fils. Amen.